Bonjour à tous. Il faut penser à tout avec cette chaleur. Alors, ce matin, ce sera une prédication un peu particulière. Voilà que j'arrive pas à me débrouiller. Quand on veut utiliser la technologie, on se fait avoir. Voilà. Donc, vous verrez que c'est une prédication un peu particulière avec des interventions qui sont inhabituelles au milieu de la prédication. Mais j'espère que cela parlera à vos cœurs. Donc, j'attends le. Je l'ai intitulé « Comment réagissons-nous devant les abus et la violence ?» Le mois de juin a été marqué par un drame incompréhensible dans notre pays. L'enlèvement, le viol et la mort d'une fillette de 11 ans par le père d'une de ses amies. Incompréhensible parce que cet homme avait été signalé de nombreuses fois comme ayant un comportement répréhensible avec les enfants, sans qu'il soit inquiété par la justice. Incompréhensible parce que les relations sexuelles sur des mineurs et le viol sont des actes criminels au sein de notre société. Et en tant que parents, nous n'imaginons pas devoir nous méfier de nos plus proches dans ce domaine. Incompréhensible parce que, en tant que maman, je ne peux même pas imaginer comment de tels actes peuvent envahir les pensées d'autres êtres humains. Comment imaginer ma propre fille exposée à de tels dangers, ma propre fille, mes petites filles. Incompréhensible parce que la ruse et la fourberie humaine sont telles qu'un homme, un père de famille, a pu abuser de la gentillesse d'une petite fille qui ne demandait qu'à faire confiance aux adultes qui l'entouraient. Notre pays, nos voisins, nos amis, nous-mêmes, sommes tous écœurés par ce drame. Heureusement, cela ne peut pas arriver au milieu de nous. Christ est mort pour nous laver de toute la boue puante de ce monde corrompu. Alors c'est certain, le quart de la moitié d'un tel comportement n'existera jamais parmi nous. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas voir de tels actes se dérouler au milieu de nous. Et pourtant, je peux vous parler d'un cas dans l'une de nos églises baptistes où un des responsables de louange a été arrêté et mis en examen en février dernier. Et je lis ce qui se trouve sur le podcast de Radio France à ce sujet. Un animateur de 40 ans est mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Il a été placé en détention provisoire après plusieurs signalements de famille. Depuis, des parents cherchent à comprendre. Certains enfants refusaient d'aller au centre depuis plusieurs mois avec des pleurs ou des crises au moment de la sieste. Il s'agit là d'une organisation périscolaire pour garder les enfants et ça concerne des enfants de classe maternelle. Fort de son autorité, cet homme a cru bon de laisser libre cours à ses fantasmes et abuser de jeunes enfants pendant leur sieste. Et oui, il était chrétien, au point qu'il avait le privilège de pouvoir conduire la louange dans son église. Alors comment ne pas être interpellé par ces situations? Comment ne pas nous examiner nous-mêmes pour considérer si notre cœur est droit devant le Seigneur? Des abus sous plusieurs formes et des viols sont relatés dans la Bible dès les temps anciens. Vous connaissez l'histoire de Sarah, laissée aux mains du Pharaon par Abraham. En Genèse 12, les versets 11 à 15, « Lorsqu'il approchait de l'Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Écoute, je sais que tu es très belle. Quand les Égyptiens te verront, ils se diront, c'est sa femme. Ils me tueront et te laisseront en vie. » Dis-leur donc que tu es ma sœur pour qu'on me traite bien à cause de toi. Ainsi, grâce à toi, ma vie sera épargnée. » En effet, quand Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens remarquèrent la grande beauté de sa femme. Des gens de la cour du Pharaon la remarquèrent et la vantèrent à leur maître, de sorte qu'elle fut enlevée et emmenée au palais royal. Et le Pharaon va connaître de grands maux à cause de cela, parce que Dieu va s'acharner sur lui, à tel point qu'il va rendre Sarai à Abraham pour que Dieu arrête de le punir. Et Abraham, il n'a pas fait ça qu'une seule fois. Hein. Si vous regardez en Genèse 20, les versets 1 et 2, Abraham quitta cette région pour aller dans le Négev. Il s'installa entre Kadesh et Chour, puis il séjourna à Guérar. En parlant de sa femme Sarai, il disait « C'est ma sœur ». De sorte qu'Abimélec, le roi de Guérar, la fit enlever. Sauf que là, Abimélec, il n'a pas touché Sarah. Dieu l'a averti et il n'a pas été puni par Dieu. Mais n'empêche que ça n'a pas servi de leçon à Abraham. Ce qui comptait, c'était sa vie à lui. Donc peu importait ce qui arrivait à Sarah, qui pourtant, il l'aimait profondément. Mais en tout cas, voilà une sorte d'abus qui est relaté dans la Bible. On connaît aussi l'histoire de la femme qui a été violée et découpée dont on parle dans Juges. J'ai repris le chapitre 19, le verset 24. Celui qui loge l'Éphraïte qui dit « Écoutez, j'ai une fille vierge et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez, vous leur ferez ce qu'il vous plaira, mais ne commettez pas sur cet homme un acte aussi odieux. » Encore là, un abus sexuel pour préserver la vie d'un homme. Et plutôt que de laisser son hôte se faire abuser par d'autres hommes, un vieil homme préfère laisser deux femmes être violées. La concubine mourra et l'Éphraïte va découper sa concubine en morceaux et envoyer un morceau dans chaque tribu d'Israël. Je pense que ceux qui étaient là au temps où Éric Le Guénec a prêché sur ce texte s'en souviennent. En tout cas, c'était assez marquant. Mais il n'y a pas que les abus sexuels dans la Bible, il y a les abus d'autorité. On connaît dans la parabole de l'intendant infidèle, cette histoire se trouve en Matthieu 18, les versets 23 à 35, Jésus qui veut nous montrer comment le Père nous pardonne avec bonté, puisque cet intendant avait une dette envers son maître l'a épargné, mais lui-même, qui avait une certaine forme de pouvoir, s'est acharné sur son propre serviteur qui lui devait de l'argent. Donc Jésus nous montre comment le Père nous pardonne avec bonté alors que nous abusons de notre autorité pour obtenir notre dû. Et là, on voit toujours, c'est toujours moi. Enfin, on connaît la mauvaise attitude des pharisiens. Alors, pour pouvoir que le texte rentre, je l'écris un peu petit. J'espère que vous pouvez lire, mais en tout cas, je vais vous le lire. Dans Matthieu, au chapitre 23, les versets 2 à 7. Alors Jésus, s'adressant à la foule et à ses disciples, dit « Les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi transmise par Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Ils lient de pesants fardeaux et les placent sur les épaules des hommes, mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les déplacer. Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Ainsi, les petits coffrets à versets qu'ils portent pendant la prière sont plus grands que ceux des autres, et les franges de leurs manteaux plus longues. Ils affectionnent les meilleures places dans les banquets et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment qu'on les salue sur les places publiques et qu'on les appelle maîtres. » Alors on peut se dire que tout cela ne concerne que des personnes qui ont été enseignées sous l'ancienne loi. On ne fait plus état de tels chrétiens parmi nous actuellement. Pourtant, la deuxième histoire que je vous ai racontée concerne bien un chrétien. Dieu connaît notre cœur humain. Et notre cœur humain a tendance à vouloir diriger, dominer, manipuler, avoir toujours raison. Écoutons le témoignage de ce que Linda a entendu à une formation Stop Abus organisée par le CNEF il y a 3 semaines à Moulins-sur-Allier.
Bonjour à tous. Merci Laurence. Effectivement, Moulins-sur-Allier, formation Stop Abus. J'aurais aimé vous partager un PowerPoint, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais on peut échanger éventuellement à ce sujet-là un petit peu plus tard. Ce qu'est Stop Abus, rapidement, Stop Abus, c'est un service d'écoute créé à l'initiative des membres du Conseil national des évangéliques de France, et c'est à la disposition de toute personne, victime ou témoin, de violences sexuelles au sein d'une structure, église, union ou œuvre protestante évangélique. Pour ma part, j'ai fait cette formation parce que je me sentais concernée par ce sujet. Je prends témoignage le cas d'une jeune fille, 21 ans, toute fraîche dans la vie, toute pimpante, pleine d'espoir, etc. etc. Donc ce que je relate, malheureusement, c'est pas en église, mais c'est le même process. Donc elle est tombée sur quelqu'un, charismatique, beau, tout ce que vous voulez, etc. Vraiment ce qu'on s'imagine quand on commence dans la vie. Sauf que elle a été victime de maltraitance psychologique, physique, et ça a conduit vraiment à des conséquences dramatiques dans sa vie. Je me suis dirigée vers cette formation parce que je me suis posé la question depuis longtemps, comment est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un qui partage sa vie, puisqu'on choisit de la partager en soi, donc forcément c'est qu'on a envie de partager des choses ensemble, mais également comment Jésus considérerait le fait qu'on fasse subir ça à la personne qui partage sa vie maintenant que je suis en église. Donc dans cette formation, on y a évoqué comment identifier et nommer ces violences, la différence entre conflit et violence, parce que ce n'est pas la même chose, les différentes formes de violence, la violence physique, la violence psychologique, la violence économique, par exemple, pourquoi souvent la victime se tait. On a réfléchi à quelles solutions peuvent être apportées et comment on peut prévenir ce phénomène en église. Donc, à titre de chiffres, je suis désolée, en plus je vois rien, je suis myope comme une taupe, c'est problématique. En 2024, donc ça c'est pour toute la France, c'est 272 400 victimes de violences physiques. Sur ces 272 000 et quelques victimes, 85% des auteurs sont des hommes. Ce qui veut dire qu'il y a 15% quand même qui sont des femmes. Une personne sur six porte plainte. Et on a 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année. Avec, pour ces enfants, 16 fois plus de risques de devenir victime de violences conjugales pour les filles et 14 fois plus de risques pour les garçons de devenir auteurs de violences à l'âge adulte. Alors, c'est des chiffres qui donnent un peu le vertige. Qu'on comprenne ce que vivent ces personnes-là, je vais vous lire quelques paroles de femmes victimes. Il m'empêchait de faire des activités, donc ça c'est vraiment spécifique à l'église. Il m'empêchait de faire des activités, je croyais que Dieu travaillait ainsi mon humilité. Je n'osais pas dire que j'étais en colère, j'avais peur d'être jugée. C'est suite au dire de mon mari et au message entendu à l'église que je pensais devoir apprendre la soumission pour être bénie et heureuse en couple. Par exemple, je me battais avec le passage de 1 Corinthiens 13 qui dit « L'amour est patient, il supporte tout, il ne cherche pas son intérêt. » Et au niveau de l'agresseur, c'est réfléchir, c'est commencer à désobéir. Tu dois t'éloigner de tes amis non chrétiens. Parce que je lui ai dit non, il m'a dit « tu devrais arrêter d'aller à l'église, tu es pire que les pharisiens ». On a également travaillé sur le fait de déconstruire ce genre de choses, le fait d'en prendre conscience. Pour ma part, je me suis sentie vraiment bête parce que je me rends compte que même en tant que femme, j'ai des réflexions qui sont vraiment... Enfin, j'ai l'impression d'être matrixée, vraiment. Et c'est difficile parce que je me dis, mais finalement... Ah, c'est pas ça, quoi. Et toute la difficulté, c'est d'arriver à avoir un équilibre entre ce qu'on cherche dans la parole de Jésus, ce que nous enseigne la parole, et comment elle peut être vendue par certains responsables d'église ou par certains qui se prétendent chrétiens, alors que ils agissent un petit peu d'une autre manière. Voilà. Et pour terminer, donc ça c'est les exemples de témoignages. Plutôt que de me concentrer sur ça, parce que c'est pas très joyeux, je préfère me concentrer sur la parole et me dire que s'il y a un Éphésiens 5:22. Donc, femme, obéissez à votre mari, tout ça, tout ça. Il y a aussi un Éphésiens 5, 25 à 29, n'est-ce pas ? Donc, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, s'il vous plaît. Et aussi un Éphésiens 5, 21, donc, obéissez les uns aux autres, etc., dans le respect de Jésus-Christ. Voilà, merci.
Voilà, j'ai aussi lu des statistiques où il est dit que un enfant en France est abusé tous les 6 minutes. Donc toutes ces statistiques nous font réfléchir. Et n'imaginons pas que c'est que à l'extérieur de nos églises. Face à toute cette violence, le Christ nous met en garde. Ses disciples qui nous ont enseigné nous mettent en garde. Nous l'avons vu, Jésus reproche aux pharisiens d'abuser de leur autorité pour imposer des lois aux hommes sous prétexte de les écarter du mal. Il met en garde à plusieurs reprises ceux qui se comportent de telle façon. Et par exemple, en Matthieu 18, les versets 6 et 7, il avertit ceux qui peuvent entraîner un enfant vers le péché. Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule qui font tourner les ânes et qu'on le précipite au fond du lac. Quel malheur pour le monde qu'il y ait tant d'occasions de tomber dans le péché. Il est inévitable qu'il y en ait, mais malheur à celui qui crée de telles occasions. Jésus connaît vraiment les méandres de notre cœur. Il donne le discernement à ses disciples pour voir ceux qui se comportent de mauvaise façon, avec un cœur partagé. Je peux citer Ananias et Saphira qui, eux, ont agi. Tout le monde pense qu'ils ont menti, mais en fait, ils ont fait ce qu'on appelle de nos jours un abus de confiance. Ils ont dit, on a gagné tant, et pour pouvoir détourner de l'argent. Est-ce que ces situations ne sont pas toujours actuelles dans notre monde ? La situation à Corinthe qui est décrite par Paul, nous en avons entendu parler à plusieurs reprises par Philippe qui nous a apporté des messages sur ce livre des Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 5, les versets 1 et 2, parle Paul du cas de celui qui vit avec la deuxième femme de son père, déclarant ainsi que le désordre sexuel ne peut pas exister dans l'Église du Christ. N'empêche que ce désordre sexuel existe chez ces Corinthiens qui sont normalement chrétiens. Et au fil des années, on a vu les textes bibliques être détournés, Linda vient d'en parler, détournés de leur vraie signification pour servir la volonté de celui ou celle qui l'utilise dans une forme d'abus spirituel. Je pense en particulier au verset de 1 Pierre 3 sur lesquels Nicolas nous a fait réfléchir dernièrement. Je cite « Femmes, soyez soumises chacune à son mari. » 1 Pierre 3, 1. Texte que l'on retrouve aussi en Éphésiens. Malheureusement, certains maris ou certains hommes, parce qu'ils extrapolent du coup sur la soumission de la femme en général à l'homme en général, mais certains maris utilisent trop souvent ce texte pour asservir leur épouse, même si ce matin, on peut croire que c'est de l'histoire ancienne. Alors écoutons ce qu'Anne Marie et son équipe ont à nous en dire.
Claire et Julien étaient mariés depuis 5 ans. Au début, leur relation semblait heureuse. Julien était attentionné et Claire remerciait souvent Dieu pour cet homme qu'elle croyait être une bénédiction dans sa vie. Mais peu à peu, les choses changèrent.
Tu vas encore voir ta sœur ce week-end ?
Demanda Julien un soir.
Franchement, tu passes plus de temps avec elle qu'avec moi. On dirait que tu préfères sa compagnie.
Claire baissa les yeux.
Ce n'est pas vrai, Julien.
Eh bien, prouve-le. Reste avec moi.
Pour éviter une dispute, elle annula sa visite. Les mois passèrent, les remarques se multiplièrent.
Tu ne peux pas faire un effort là sur la maison.
J'ai travaillé toute la journée.
Des excuses, toujours des excuses. Tu n'es pas à la hauteur.
À force d'entendre ces paroles, Claire commença à douter d'elle-même. Un soir après le dîner, Julien trouva un document qu'elle avait oublié de ranger.
Claire, c'est quoi ça ?
C'est un dossier du travail.
Mais tu es incapable de faire les choses correctement !
Il jeta les papiers sur la table.
Je suis désolé, je suis désolé.
Tu es désolé, mais rien ne change.
Cette fois-là, il la poussa violemment. Claire recula, choquée. Julien quitta la pièce en claquant la porte. Le lendemain, il revint avec un bouquet de fleurs.
Pardonne-moi, j'étais stressée, mais tu sais bien que je t'aime.
Claire voulait croire à ses excuses. Mais les violences recommencèrent. Chaque fois, le même scénario. La colère, les larmes, les excuses. Un soir, après une nouvelle dispute, Claire s'enferma dans sa chambre. Elle prit sa Bible et se mit à prier.
Seigneur, je ne comprends plus. Aide-moi. Montre-moi.
Le dimanche suivant, après le culte, elle resta assise seule dans l'église. Une responsable de l'église, Marie, s'approcha.
Claire, tout va bien ?
Non, rien ne va.
Mais tu sais que tu peux nous parler ?
Pendant plusieurs minutes, Claire raconta tout, les humiliations, les menaces, les violences. Lorsque son récit fut terminé, Marie lui prit doucement la main.
Mais Claire, ce que tu vis est grave.
Mais je suis chrétienne, je dois pardonner, non ?
Oui, le pardon est important. Mais Dieu ne te demande pas de rester dans le danger. L'amour n'accepte pas la violence.
Ces mots touchèrent profondément Claire. Quelques jours plus tard, une nouvelle dispute éclata.
Pourquoi tu me regardes comme ça ?
Cria Julien.
Arrête de me provoquer !
Julien s'approcha brutalement. Cette fois, Claire ne baissa pas les yeux.
Non, Julien.
Comment ça, non ? Tu connais ce verset de la Bible ? Femme, soyez soumise à vos maris.
Je n'accepterai plus ça.
Tu crois que quelqu'un va te croire ?
Claire sentit son cœur battre très fort. Puis, elle répondit calmement. Le lendemain, avec l'aide de son église, de sa famille et d'une association spécialisée, elle quitta le domicile. Les premières semaines furent difficiles. Un soir, alors qu'elle logeait chez sa sœur, elle pria en regardant par la fenêtre. Une paix profonde envahit son cœur. Les mois passèrent, Claire suivit un accompagnement, retrouva confiance en elle et reconstruisit sa vie. Un an plus tard, après un culte, elle témoignait devant quelques femmes de l'église.
Pendant longtemps, j'ai cru que supporter la violence était une preuve d'amour et de foi. Aujourd'hui, je sais que Dieu veut aussi notre protection, notre dignité et notre liberté.
Une jeune femme dans l'assemblée avait les larmes aux yeux. Claire lui adressa un sourire bienveillant.
N'ayez pas peur de demander de l'aide. Dieu agit souvent à travers les personnes qui nous placent sur notre chemin.
En levant les yeux vers la croix au fond de l'église, Claire repensa au verset qui l'avait aidée à tenir. Et elle savait désormais que cette promesse était vraie. Même dans les moments les plus sombres, Dieu ne l'avait jamais abandonnée. Cette histoire est de la pure fiction, créée grâce à l'intelligence artificielle. Mais fiction, vraiment ? Je reprends en diapo les chiffres que Linda a pu dire. En 2024, ça va vous sauter plus aux yeux peut-être, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 272 400 victimes de violences conjugales. 84% des victimes sont des femmes, 64% des violences sont physiques, psychologiques ou verbales et 5% sexuelles. Selon les enquêtes de victimisation, seule une victime sur 6 porte plainte. Les chiffres réels sont donc nettement plus élevés que les statistiques policières. En 2025, 164 femmes ont déjà été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en France, et déjà 64 en 2026. Et dans les églises, les violences conjugales ne s'arrêtent pas à la porte des églises. Les croyants ne sont pas immunisés contre le péché, la domination ou la violence. La différence devrait être que l'Église devienne un lieu où les victimes sont protégées, écoutées et accompagnées. Notre Église a signé il y a quelque temps une charte pour accompagner les personnes victimes de violences conjugales. Vous pouvez la lire, elle est affichée en bas de l'escalier dans la salle à côté. Je suis la personne référente. J'ai suivi une formation à l'accompagnement avec la Fédération des Églises Baptistes. Je me suis constitué un dossier de ressources sur le Puy-de-Dôme et je peux, comme Marie, être dans l'histoire, être la personne que Dieu place sur votre chemin. Pour ceux qui écouteraient ce message sur le site, ils ne me voient pas, donc je suis Anne-Marie de l'Église Baptiste. Une chose très importante à savoir dans cet accompagnement, c'est d'abord la confidentialité et deuxièmement la discrétion. Vous vous reconnaissez dans le personnage de Claire ou vous connaissez quelqu'un qui lui ressemble, vous pouvez venir me voir ou me contacter directement. Merci.
Merci Anne-Marie et merci à nos acteurs qui l'ont accompagnée dans ce témoignage. Alors, on a beaucoup parlé des violences conjugales, mais vous l'avez compris, mon propos c'est aussi de parler des violences et des abus sous toutes leurs formes. Mais dans tout cela, comment réagir en tant que chrétien ? Dieu nous appelle à l'humilité, à ne pas chercher notre intérêt et notre satisfaction personnelle. Nous l'avons vu, je vous l'ai fait remarquer au fur et à mesure de mes paroles, à chaque fois c'est « je », « j'ai envie de », « je voudrais ». Et dans sa parole, Dieu nous parle de ce texte que nous connaissons bien, « La paille et la poutre ». Nous devons prendre conscience de ce qui est vraiment notre cœur sans Dieu ou loin de lui. Face aux situations, aux témoignages que nous avons entendus, Dieu nous enseigne à bien nous examiner. Ne nous pensons pas meilleurs que les autres. Restons humbles devant notre Créateur qui sait exactement ce que contient notre cœur. Nous pensons que tout va bien tant que les autres ne connaissent pas notre véritable nature. On fait des efforts pour cacher les choses et nous pensons pouvoir faire illusion. Mais Dieu sait ce qui est dans notre cœur. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever la paille de ton œil » alors que toi, tu as une poutre dans le tien ? Oui, il est facile de regarder et de juger ceux qui ne se comportent pas selon le cœur de Dieu. Mais combien il est difficile de reconnaître soi-même son mauvais comportement. Nous pouvons nous-mêmes aussi parfois être victimes d'abuseurs. Sans nous en rendre compte, nous acceptons des enseignements qui ne sont pas conformes aux enseignements de notre Seigneur. C'est ce qui a pu se passer dans les premières communautés chrétiennes. Et Paul déclare aux Colossiens, au chapitre 2, les versets 20 à 23, « Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impostons ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils inculquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Au contraire, nous sommes encouragés à aimer en cherchant le bien de l'autre, pas en l'asservissant à notre propre système de pensée. Nous pouvons lire en Romains 12, les versets 9 et 10, « L'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. » Et en Matthieu 20, des versets 25 à 28, Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Violenter, dominer, abuser n'ont aucune raison d'être dans le cœur des enfants de Dieu. Chercher à imposer son point de vue de façon autoritaire ne correspond en rien à la volonté de Dieu pour chacun de nous. Au contraire, notre Sauveur nous montre l'exemple en affirmant qu'il n'est pas venu comme un dominateur, mais comme un serviteur. Alors en conclusion, notre monde prône parfois la loi du plus fort. Il devient de plus en plus normal de piétiner et abuser l'autre en se servant soi-même, en cherchant son propre plaisir, en obéissant à ses propres désirs sans se préoccuper d'autrui. Mais Jésus nous demande de ne pas vivre ainsi. Lui, il prône l'amour, le don de soi, s'oublier soi-même pour servir l'autre. En Matthieu 5, les versets 43 à 45, il déclare « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Oui, notre Seigneur reconnaît bien qu'il y a des injustes, comme le mari de Claire dans ce sketch qu'Anne-Marie nous a présenté. Il ne demande pas de se soumettre à eux ni de se venger d'eux, mais de prier pour eux. Un peu plus haut, dans ce magnifique texte du Sermon sur la montagne que je viens de citer, Jésus déclare « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. » C'est Matthieu 5, les versets 6 et 7. Si nous plaçons notre foi en lui, si nous regardons vers lui, si nous nous attendons à lui, il nous donne ainsi l'assurance que la justice viendra aussi pour les victimes. Alors au moment de nous quitter, j'ai envie de nous demander, tout au long de cet été, dans nos lieux de vacances ou dans notre quotidien pour ceux qui resteront chez eux, que nous puissions méditer sur tout cela et que dans nos contacts, nos relations avec notre famille, nos proches, les personnes que nous rencontrerons, nous portions le message de la bienveillance, de l'amour et de la paix de Dieu. Prenons durant ce temps de repos et de réflexion la décision de garder de bonnes dispositions pour entamer une nouvelle année d'activité avec un cœur droit, celui que notre Seigneur attend de voir en nous chaque jour. Prions. Seigneur, ce matin, tu nous pousses à réfléchir à un sujet difficile, celui de la violence qui sévit dans notre monde avec ces actes que j'ai pu relater, mais aussi celui de la violence qui peut sévir au milieu de nous si nous n'y prenons pas garde, si nous n'essayons pas de conformer nos cœurs à ce que toi tu attends de nous. Alors je te prie ce matin pour chacun de nous, pour que tu nous aides à avancer sur le chemin qui mène à la paix, à la joie, à la justice, sur ce chemin que tu nous as tracé, ce chemin qui n'est pas fait de violence et de domination, mais ce chemin qui est celui qui nous conduit à plus de compassion, plus d'amour, plus de don de soi envers nos frères et nos sœurs. Oui, nos frères et nos sœurs, ce sont ceux qui sont assis sur les sièges à côté de nous. C'est notre conjoint que nous devons aussi voir de cette façon-là, comme une personne pour qui tu as donné ta vie, pour qui tu es mort et que tu as libéré des fardeaux de la violence et de l'amertume. Ce sont nos enfants sur qui tu nous demandes de ne pas exercer de violence, mais que tu nous enjoins à éduquer selon ta parole. Ce sont nos amis que nous ne devons pas contraindre ni juger, mais à qui nous devons parler avec ton amour et ta bienveillance. Oui, Seigneur, que dans chaque situation, nous puissions réfléchir à l'attitude de notre cœur et vraiment nous conformer à ce que ta parole nous demande. En Jésus-Christ. Amen.